Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, c'est bon de louer notre Sauveur. On ne se lasse jamais de lui dire merci tous les jours de notre vie pour ce si grand salut qu'il nous a accordé. Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 46. Nous ferons deux lectures. Ésaïe 46. Et à partir du verset 3e. Ésaïe 46, 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse, ils pèsent l'argent à la balance. Il paie un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu, et il se prosterne et adore. Il le porte, il le charge sur l'épaule, il le met en place, et ils y restent, il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Et nous allons garder le texte et nous allons dans le livre du prophète Daniel. Voilà, lire deux versets. Daniel, chapitre 4. Voilà, tout le contexte est intéressant à lire, mais nous lirons juste à partir du verset 34. Daniel 4, 34 et 35. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» Amen. Voilà, c'est de lecture d'introduction, donc nous rappelle le sujet, le thème que nous avons déjà médité. Nous nous entretiendrons ce matin également sur la souveraineté de Dieu. Souvenons-nous que la vision que nous avons de Dieu ou la connaissance spirituelle que nous avons de Dieu, eh bien, de cela dépend toute notre vie spirituelle. Notre pratique, notre marche chrétienne dépend de la vision et la connaissance que nous avons de Dieu au travers de Jésus-Christ, bien sûr, notre Sauveur. Mais de sa connaissance, eh bien, dépendra une vision juste. Plus nous connaissons Dieu et plus nous marchons dans une crainte respectueuse de lui, eh bien, nous avons notre vie, il y aura de la louange, de la reconnaissance, et nous témoignerons avec assurance. Plus nous réaliserons la grandeur de Dieu, eh bien, plus nous réaliserons notre petitesse, notre limitation et notre besoin de lui chaque jour, à chaque heure. D'un point de vue pratique, plus nous sommes conscients de la souveraineté de Dieu, et plus nous aurons la paix, la tranquillité, l'assurance de nous dire que nous ne sommes pas des pions, des numéros sur un échiquier, des pions sur un échiquier, mais nous sommes, ce n'est pas le hasard qui nous conduit, qui conduit les circonstances, qui dirige ce monde, ce ne sont pas les circonstances qui vont abattre nos vies, mais Dieu est au-dessus de tout cela. Dieu est assis sur son trône et il règne. Rien ne lui échappe. Dans tout ce qui se passe dans le monde, rien n'échappe à Dieu. Dans tout ce qui se passe dans notre vie et autour de notre vie, rien n'échappe à Dieu. Vous pouvez dire amen, parce que c'est une grâce extraordinaire de ce que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Aucune difficulté, souffrance n'est cachée aux yeux de Dieu. Il voit tout, il connaît tout et il peut tout. Et ça, ça nous réjouit. Il règne sur toutes les circonstances. La parole de Dieu ne dit-elle pas dans Romains 8, 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses, les positives et les négatives. Dieu fait concourir par la grâce, par sa grâce à notre bien. Parler de la souveraineté de Dieu, c'est la reconnaître, bien sûr, c'est reconnaître la nature et les attributs de Dieu, c'est finalement le remettre à sa place. Il nous faut une vision juste de qui est Dieu et où il est. Une vision juste. Mais c'est également remettre l'homme à sa place. Tant de fois, l'homme veut prendre la place de Dieu. Il se croit maître des temps et des circonstances, il croit qu'il a un pouvoir illimité, qu'il a des ressources illimitées et des solutions à tout. Il ne sait pas qu'il ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Il ne sait pas qu'il est une vapeur qui passe, qu'il est une fleur qui aujourd'hui est dans toute sa beauté et demain disparaît. Il ne sait pas. Dans Romains chapitre 1, verset 22, il est dit, en parlant des hommes, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » On parle du monde en général, hein, là. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20, il est dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? L'homme revendique sa liberté, son indépendance, son autonomie, sa suffisance. Quel orgueil! Dans toute la Bible, nous trouvons cela, mais quel orgueil! Combien se sont élevés en s'érigeant comme Dieu, à la place de Dieu, voulant être maître du monde. Et dans le siècle dernier, on en a eu quelques personnages qui ont voulu être maître du monde. Nous n'avons pas été créés et pour nous sauver, pour cela. Alors, rien d'étonnant, c'est toujours la même tentation. Vous savez, le diable, il a une chose, il faut le savoir, c'est qu'il a toujours la même stratégie. Et comme ça marche, il la garde. Pourvu qu'elle ne marche pas avec nous, hein. Mais depuis le jardin d'Éden, ça a toujours été cela. Mangez de ce fruit et vous serez comme des dieux. Où vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Et c'est toujours cela, dans le cœur des hommes, tout au long de l'histoire de l'humanité, nous retrouvons cet esprit tout au long de la Bible, et par exemple dans Ézéchiel 28, 2, il est dit, « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, rien que ça, au sein des mers, toi qui es homme et non Dieu, tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tout au long de l'histoire de l'humanité, mais de l'histoire même biblique, les nations qui étaient là, des hommes, eh bien, se sont crus à un moment donné, eh bien, maîtriser les autres, maîtriser les circonstances, maîtriser les peuples, avec une autorité, avec une puissance, mais ils ont juste oublié que Dieu fait ce qu'il veut. Il déplace, il fait, il abat, il relève, il fait ce qu'il veut. Et il faut que nous nous en souvenions, nous, on parlera bien sûr de nous, de l'Église, mais déjà de l'humanité, il faut comprendre que cette tentation qui était là, l'esprit qui a animé le diable dans le jardin d'Éden, ce même esprit, il le communique à d'autres et tout au long de l'histoire. Vous serez comme des dieux. Nous avons lu dans l'histoire de Daniel, juste ces deux versets, où Daniel lui-même parlera et le roi Nebuchadnezzar fera cette confession, lui qui se croyait maître du monde avec son pouvoir et son autorité. Il avait un grand pouvoir, il avait une grande autorité, il était le plus grand dans l'histoire, là, dans cette époque-là, mais il a cru qu'il était au-dessus de Dieu. Et Dieu, à un moment donné, va, au travers du prophète Daniel, va lui donner cette prophétie, ton royaume est terminé, etc. Il va lui dire, et puis il va se retrouver quelques années dans la forêt. Et il vivait au milieu des bêtes. Voyez, lui, le grand Nebuchadnezzar, celui qui parlait, tout le monde obéissait. Il se retrouve dans la forêt, il vit comme une bête, il mange de l'herbe, les cheveux, les ongles lui poussent, et à un moment donné, il dit, et nous l'avons lu, regardant vers le ciel, tournant les regards vers le ciel, la raison me revint, mais c'est la raison spirituelle. Il a compris, il a réalisé que dans le ciel, il y avait un Dieu qui était bien au-dessus de lui, et que lui était simplement un humain, une vapeur qui passe. Il a compris, mais il lui a fallu des années dans la nature, des années en vivant comme les bêtes, pour réaliser eh bien, que Dieu était au-dessus de tout, qu'il avait toute autorité, tout pouvoir, qu'il était vraiment le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Quelle confession de la part de cet homme orgueilleux. Dieu a brisé cet orgueil, il a brisé ce roi. Et au verset 37, il dira, de ce même chapitre 4, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies sont justes, celui qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Waouh ! Moi, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Je me dis, non Seigneur, tu n'as pas laissé cet homme dans sa folie, dans sa démesure, mais il confesse lui-même, toi qui peux abaisser les orgueilleux dont lui en était le premier. Ça c'est beau, Dieu est souverain, il est au-dessus de tout. On n'est pas ballotté au gré des circonstances, le hasard, les choses qui nous abattent, on a l'impression quelquefois qu'on est ballotté tout seul. Non, Dieu a son regard sur chacun d'entre nous. On n'est pas tout seul et les circonstances ne sont pas maîtres de celui qui fait confiance à Dieu. Elles ne nous abattront pas parce que Dieu contrôle toutes choses. Nous comprenons pourquoi le monde est comme il est. Et nous devons veiller et toujours être renouvelés dans la connaissance spirituelle de Dieu. La parole, elle est là pour nous renouveler. Il faut sans cesse repasser sur notre cœur qui est Dieu, sa nature, ses attributs, tous les attributs, pas un seul, hein. Mais il faut repasser. La parole Et plus nous étudions, plus nous méditons sur qui est Dieu, et plus notre paix augmentera. Plus la louange jaillira de nos cœurs, de se dire, mais un Dieu si grand, si puissant, mais il s'intéresse à moi, qui suis un grain de poussière, mais oui, Dieu s'intéresse, il nous aime. Et il ne laisse pas les choses aller, mais il est maître en toutes choses. Il est si facile de glisser et de vouloir être maître de nos vies. Je fais ce que je veux, je pense ce que je veux et je vis comme je veux. C'est vite fait de glisser comme ça. Et on a l'impression que celui qui est orgueilleux, c'est celui qui lève le poing contre Dieu. Mais non, ça peut être celui qui fait fi de sa parole. Hein. Celui qui fait fi de sa parole, il est orgueilleux. Et nous sommes orgueilleux chaque fois que nous faisons fi de la parole de Dieu. Parce que Dieu parle, il ne parle pas en vain. Et c'est lui qui parle, et sa parole, elle est esprit et vie, et sa parole a autorité. Quand il parle, il ne parle pas pour que, eh bien, nous ne fassions pas, mais quand il parle, au travers de sa parole, il parle pour que nous puissions obéir. Tout ce que Dieu a créé dans l'univers lui est soumis. Et même Jésus lui a été soumis. Et lui sera soumis à la fin. Il remettra toutes choses entre les mains du Père. C'est beau, et j'ai relevé juste la fin d'un verset, 1 Corinthiens 15, verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. C'est tellement beau. Jésus peut dire, voilà, j'ai accompli, j'ai fini, voilà, je remets toutes choses entre les mains du Père. Et dans Colossiens, chapitre 1, verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. Voyez que plus on étudie, plus on médite, plus le Saint-Esprit nous révèle qui est Dieu, et moins on va se prendre pour quelque chose ou pour quelqu'un. Eh oui, parce que finalement, il y a en nous la marque de l'homme pécheur. On est sauvé par grâce, mais on est encore dans ce monde et il y a encore la chair qui est là, et ça peut vite en chacun de nous se prendre pour un Dieu. Même si on ne lève pas le poing, je le conçois. Mais ça peut facilement nous atteindre. Et moi, nous voulons plier le genou devant lui. Tout ce qui est soumis à Dieu, en fait, là où il règne, tout est en harmonie. Il y a de l'ordre, il y a de l'harmonie, il y a la paix. L'univers tout entier, vous voyez, quand même, on peut se dire que ça tourne bien, l'univers. Hein? Non? Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas qu'il y a de l'harmonie dans l'univers? Simplement un dérèglement, et il y a des choses qui, depuis des milliers d'années, ça tourne. Il n'y a même pas besoin de nous. C'est Dieu. Les lois qu'il a instaurées, tout ce qu'il a mis en place, eh bien, ça tourne. Il a une autorité. Ah, ça nous dépasse, tout ça. Ça nous dépasse. Là où Dieu règne, il y a de l'ordre, de l'harmonie, il y a la paix. Là où Dieu ne règne pas, il y a souvent le chaos, le désordre, la rébellion, etc. En ce qui concerne l'homme, vous savez que l'homme a une petite part de liberté. On a l'impression que parce que l'homme dit je suis libre, je fais ce que je veux, il a l'impression qu'il est vraiment libre. Est-ce que vous croyez que l'homme est vraiment libre?
Non.
C'est un non. L'homme a une petite part de liberté. On a l'impression qu'il fait, mais c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. L'homme n'est pas totalement libre. En tous les cas, quand je lis l'Écriture, l'homme n'est pas totalement libre. Dieu est maître de sa vie. C'est lui qui coupe le fil. Qu'est-ce qui coupe le fil de notre vie? C'est Dieu. C'est Dieu qui a toute autorité. C'est pas l'homme. Mais Dieu a laissé une part de liberté. Mais plus je lis la parole et plus je m'aperçois qu'elle n'est pas si grande que ça, cette part de liberté. Mais en tous les cas, il exploite au maximum. Ça, Nous le savons, l'homme pécheur, il y a la rébellion, la colère, c'est le résultat de l'orgueil et de la suffisance, mais nous étions comme eux. Dans Éphésiens chapitre 2, il est dit que nous étions nous aussi de leur nombre. Nous marchions autrefois selon le prince de ce monde, selon la puissance de l'air. Nous marchions selon les convoitises de la chair. Nous aussi, nous étions comme eux. Il y avait de la rébellion en nous, il y avait de la colère, il y avait de la méchanceté. On marchait selon les convoitises de notre chair. Mais grâce soit rendue à Dieu, il nous a fait miséricorde. Et quand on lit la suite, eh bien, il nous est parlé de ce si grand salut que Dieu nous a accordé. Mais nous étions de leur nombre. Alors nous ne voulons pas pointer le doigt, mais nous voulons prier pour que de la colère il passe à l'amour de Dieu, de la rébellion il passe à la paix de Dieu. Et il y en a combien autour de nous qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin de ce Sauveur, qui ont besoin de celui qui est souverain. Moi j'ai besoin de lui. Je ne voudrais pas vivre une seule seconde en autonomie. En indépendance vis-à-vis de Dieu, c'est livré à tout ça. Moi, je ne veux pas. Je dis, Seigneur, toi, tu gères bien les choses. Tu as géré pour le salut, pour la délivrance. Tu gères, Seigneur, et nous voulons être, et je veux être entre tes mains. Ils ne reconnaissent pas le moins du monde qu'ils ont été créés par Dieu et pour Dieu. En ce qui nous concerne, nous, les croyants, les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui appartiennent à l'Église, les pierres vivantes, sommes-nous réellement soumis à Dieu? Reconnaissons-nous tous et chacun la souveraineté absolue de Dieu sur nos vies, sur toutes choses, sur les circonstances? La réponse est bien sûr non. Nous avons besoin de l'action puissante du Saint-Esprit et de la parole de Dieu qui agissent avec autorité, plus d'autorité dans nos cœurs. On peut dire, et je peux dire, non, je voudrais être encore plus soumis. Je voudrais encore plus que l'autorité, la souveraineté de Dieu, eh bien, agisse sur ma vie. Je voudrais de plus en plus disparaître et que Dieu paraisse. Je voudrais de plus en plus, non pas ma justice, ce que je pense, ce que je dis, non, de plus en plus ce qu'il dit lui, sa justice à lui, son amour à lui, qui se manifeste dans ma vie. Ouais, Seigneur. Car il y a cette petite part de liberté chez le croyant aussi, et nous pouvons encore faire notre volonté. Vivre sans tenir compte de la volonté de Dieu, marcher selon nos propres désirs, nos pensées, nous pouvons encore le faire même en tant que chrétiens. Mais que Dieu nous aide à ne pas marcher comme ça. Puisque Paul le dit aux Éphésiens, il le dit aux Corinthiens, aux Colossiens, il dit « Vous ne devez plus marcher comme autrefois, comme les païens, vous ne devez plus marcher. » Il leur dit, par là des chrétiens, ces épîtres sont envoyées, ces lettres étaient envoyées à des églises, « Vous ne devez plus marcher de telle manière, mais maintenant, étant enfant de Dieu, voilà comment vous devez marcher. » Il y a une part de liberté, bien sûr, même sur l'église, sur chacun de nous en tant que chrétiens, Dieu nous laisse libres. Dieu nous laisse encore cette part de liberté. Pardon. Cela se vérifie surtout avec le rapport que nous avons avec la Bible, la parole de Dieu. On la discute, on fait fi de certains passages, on fait fi de certains attributs de Dieu, parfois on lui fait dire ce qu'elle ne dit pas. On l'adapte à notre mode de vie et on prend les promesses de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est une réalité, frères et sœurs, mais nous voulons progresser. Et oui, on a envie de progresser, de ressembler de plus en plus à Jésus. Jésus était soumis en toutes choses. Il reconnaissait l'autorité, la souveraineté du Père, lui le Fils de Dieu. Lui qui a été tenté en toute chose par le diable, sans commettre de péché. Mais quand le diable dit « si tu es le Fils de Dieu », mais quelle tentation! Jésus avait la puissance de faire des miracles, même dans le jardin, quand il a été dans le désert, pardon, quand il a été tenté. Mais il reconnaît l'autorité de la parole de Dieu. Il est écrit. Ma situation, ouais, ça pourrait s'arranger, j'ai faim et je pourrais, mais il est écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. La parole avait une autorité extraordinaire sur la vie du Fils de Dieu, bien sûr. Plaise à Dieu qu'elle ait une autorité aussi sur nos vies. Sur nos vies. Dans Isaïe 46, il y a la voix de Dieu qui s'est fait entendre, il y a le prophète qui est le porte-parole de Dieu, qui annonçait ce que Dieu, il savait ce que Dieu demandait, mais ils n'ont eu aucune crainte. Ils n'ont pas reconnu la voix de Dieu. À qui me ferez-vous ressembler pour que je sois semblable? Il paie un orfèvre pour qu'il fasse un dieu et il se prosterne et adore. On se dit, mais c'est terrible, parce que le peuple de Dieu, combien de fois il a été idolâtre? Depuis l'Ancien Testament, depuis l'époque de Moïse, le peuple a été idolâtre. Et quand l'épisode de Moïse qui descend de la montagne et qui arrive à l'étape de la loi, mais c'est terrible, quand on y pense, on se dit, Dieu est en train de parler à Moïse sur la montagne, il lui donne les 10 commandements, c'est un moment extraordinaire dans l'histoire de... Et Dieu va, un événement sans précédent. Et le peuple, parce qu'il s'est impatienté, on se dit, mais est-ce que c'est possible ça? De dire à Aaron, fais-nous un veau en métal, fais-nous. Et quand il a obéi, lui, il aurait mieux fait d'obéir à Dieu, mais là il a obéi au peuple, et il fait ce, et voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Est-ce que ça semble pas possible? Le peuple de Dieu qui se fabrique une idole et qui dit, mais c'est cette idole-là qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais tout au long de l'histoire, c'est pour ça le cœur de l'homme, il est tellement changeant. Tellement changeant. On a l'impression que, voilà, il nous faut veiller sur nos voies, veiller sur notre cœur. Nous l'avons dit dimanche pendant le jeûne, veiller sur notre cœur, veiller sur le bon dépôt que Dieu a mis dans notre cœur. Veiller, veiller, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire. En nous éloignant un peu de Dieu, en prenant un petit peu, eh bien, on ne sait pas. Mais que Dieu nous garde, et que nous puissions nous garder aussi. Que nous puissions nous garder dans les voies de Dieu, afin de toujours, toujours être soumis à Dieu. Soumis à son amour, bien sûr, mais soumis à sa puissance, à son autorité. Ah, ça c'est bon d'être soumis à Dieu. Mais la chair, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Moi je. Eh ouais. Que Dieu nous aide et qu'il nous garde. Et oui, une statue ne parle pas dans Isaïe 46. On lui fait dire ce qu'on veut. On l'amène avec nous sur l'épaule et on l'amène où on veut. On la transporte. Voilà. Mais Dieu dit, mais elle ne peut sauver, elle ne peut exaucer les prières. Comment se fabriquer une idole? Mais ce n'est pas possible. Il y a un Dieu vivant, un Dieu qui parle et sa parole a autorité. Et il agit avec puissance, il les sauve, il les maintient, et non, on fabrique une idole où on, comme elle ne parle pas, on lui fait dire les choses. Mais quand on se fabrique un Dieu, c'est comme ça. On lui fait dire ce qu'on pense. Et on l'adapte à nos concepts. Alors si la vision que nous avons de Dieu est faussée, cela devient une idole. et toute notre vie sera faussée. Nous avons besoin, frères et sœurs, la Bible, elle a été faite pour être méditée, reméditée. La Bible a été faite pour connaître Dieu, pour savoir ce qu'il veut, ce qu'il aime, son plan, sa volonté. La Bible, elle est comme ça, elle a des promesses pour nous, pour le temps présent et pour plus loin. La Bible, elle a été faite pour ça, il faut la ruminer, et chaque fois, eh bien, que le Saint-Esprit puisse nous émerveiller quand nous lisons la parole et quand nous lisons qui est Dieu, ce qu'il a fait dans le passé. Ça nous parle de sa fidélité, de sa bonté, mais ce qu'il prépare aussi pour l'avenir, et nous pouvons le louer parce qu'il prépare pour nous un avenir glorieux. Glorieux. Il a tout prévu. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Ce que Dieu a prévu, c'est bon, c'est sûr, mais ça dépasse même notre entendement. Ce que Dieu a préparé, la place qu'il nous a préparée dans le ciel, ça dépasse notre entendement. Mais nous voulons reconnaître qu'il est l'homme a du mal à reconnaître que le Créateur a tous les droits sur l'univers et même sur l'homme, qu'il n'a pas besoin de demander la permission pour faire ce qu'il doit faire. Dans Job, au chapitre 33, verset 13, il est dit « Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes ?» Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Et au verset 16, regardez pourquoi Dieu a donné la parole, un des objectifs. 33, verset 16, « Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à son instruction. » Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Vous voyez, en méditant la parole, ça va nous garder de l'orgueil. Il y en a des bénéfices à méditer la parole. Mais il y en a des bénéfices. Mais il nous faut la lire avec abondance, qu'elle habite abondamment nos cœurs et que... Quand bien on a l'impression de s'élever un peu, qu'on cite des versets qui sont là dans notre cœur et qui nous ramènent à la réalité, toujours, toujours, toujours. C'est jamais acquis. On n'a jamais dit, voilà, maintenant, moi, Dieu est mon maître, mon souverain. Ah, je peux le dire, mais dans la réalité, on a besoin de beaucoup d'humilité et de reconnaître que le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout, il est méchant. C'est le cœur naturel de l'homme, et si on s'éloigne un peu de Dieu, on est comme ça. Mais si on reste dans la communion, dans la crainte de la parole de Dieu, eh bien ça nous garantira. Il est dit autrefois, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Et avant d'avoir été humilié, eh bien je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Dans le psaume 119, je ne sais pas si c'est au verset 76, mais... C'est par là. L'homme est épris de liberté, mais en réalité, il ne peut se soustraire à toutes les contraintes. Il peut se soustraire, pardon, à toutes les contraintes de cette société. Vivre dans la nature, certains le font, bien sûr, en autonomie complète ou partielle. Mais sera-t-il libre pour autant ? La Bible dit non. Il y a des chaînes dans le cœur appelées le péché, et l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. On peut être seul dans un endroit, on se dit, là je ne me disputerai pas, je serai seul, il n'y aura pas de problème de relationnel, il n'y aura rien, je suis seul. Mais dans le cœur, il y a le péché. Même tout seul, il y a le péché. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors on peut être prisonnier du péché tout seul sur le garlaban et on peut être libre dans une cellule. Comme Paul, il était libre. Les barreaux, les murs, le cachot, eh bien ne l'empêchaient pas de servir Dieu, de le louer, de le célébrer et en plus... Dieu règne sur les circonstances, il y a eu un tremblement de terre, Mais alors, ça a été le meilleur tremblement de terre qu'il y ait au monde. Il a tué personne. Il a juste ouvert les portes de la prison. Aucun n'a été blessé. Ça, c'est formidable. C'est le miracle de Dieu. Il règne sur les circonstances. Eux, ils lui ont fait confiance. Ils ont dit, on est en prison, mais Dieu, eh bien, les barreaux ne le retiennent pas. Donc, eh bien, on va le louer, prier, le célébrer. Et il y a eu le miracle qui s'est produit. Combien c'est bon d'être soumis à Dieu. Moi, je veux apprendre et lui dire, Seigneur, mais qui je suis? Qui nous sommes? Seigneur, je veux, ouais, être à la juste mesure de ce qu'est l'homme et toi, ce que tu es. Par contre, celui qui est pleinement à Dieu est libre dans son cœur, comme je l'ai dit, il est libre, le Saint-Esprit peut agir, la parole continue d'agir, il est soumis à Dieu et en même temps il est libre. Et plus nous connaîtrons Dieu, plus nous connaîtrons sa puissance, son autorité, son amour, sa sainteté, plus nous nous soumettrons à lui, à sa parole. Et là, eh bien, là, il nous garantit. Il y a une garantie pour chacun, pour tous. Il ne nous écrasera jamais, mais il nous fortifiera, il nous gardera, il nous bénira, il nous renouvellera, que son nom soit loué. C'est tellement rassurant de pouvoir s'abandonner entre les mains de celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés, celui qui sait tout, celui qui peut tout, celui qui est partout. Pour certains, peut-être au milieu de nous, il nous faut peut-être arrêter de fuir la volonté de Dieu. Vous savez ce qu'il vous demande depuis longtemps, il faut le faire. Pour d'autres, et nous pouvons nous englober, faisons davantage confiance à Dieu en toutes choses. Mettons-nous sous son autorité. Cessons de nous appuyer sur notre propre sagesse, mais appuyons-nous sur la sagesse de Dieu. De toute façon, un jour, nous serons obligés de plier le genou devant Jésus. Ça, c'est sûr et c'est certain. Tous les orgueilleux, tous ceux que la terre a portés, qui se croyaient vraiment quelqu'un, ils plieront le genou devant Jésus. Ils plieront le genou un jour devant Jésus. Dans Philippiens au chapitre 2, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, parce qu'il s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de Nebuchadnezzar, il y a Jésus. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Waouh ! C'est, voilà, tout genou, tous ceux qui nous disent, moi, quand je serai devant Dieu, je lui dirai, on vous l'a certainement dit, mais ils plieront le genou aussi. Il vaut mieux le plier maintenant, par amour, par reconnaissance, par la puissance du Saint-Esprit, parce que Jésus nous a sauvés, nous avons compris, nous fléchissons le genou devant Jésus, devant le Père. Il vaut mieux le plier maintenant. Parce que si nous le plions, à ce moment-là, ce sera un jugement. Mais là, nous le plions volontairement devant Jésus, parce que nous reconnaissons qu'il est roi. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Il a tous les droits sur nous. Tous les droits. Sur nous. Et plus nous laissons faire, et plus il y aura bien une harmonie. La paix augmentera, la tranquillité. C'est bon de laisser faire à quelqu'un qui peut tout. C'est bon de se laisser diriger par quelqu'un qui connaît tout. C'est bon de lui dire, Seigneur, je le lis, je l'accepte, peut-être avec mon intelligence, Seigneur, que ça descende dans mon cœur et que ça devienne pratique. Telle chose, ça me plaît pas trop, mais je vais le faire parce que je te respecte, Seigneur. Alors il y a, et je termine, une seule puissance qui peut amener, quelqu'un de l'orgueil à l'humilité. Une seule puissance, la puissance de la croix. Il n'y a rien d'autre, il n'y a aucun autre lieu qui peut nous toucher comme la croix qui nous touche par le sang de Jésus, par l'efficacité du Saint-Esprit, l'amour de Dieu qui a été manifesté, la sainteté de Dieu. C'est la croix qui peut nous toucher et dire mais un Dieu si grand, si puissant a fait ça pour moi, mais qu'est-ce que je veux revendiquer maintenant? Je veux le louer, je veux le célébrer, je veux le glorifier. Nebuchadnezzar, c'est quand même... Mais il a reconnu, il dit « je loue, j'exalte maintenant le Dieu, c'est beau ce qu'il y a eu, il a fallu, je crois que c'est 7 ans, non, dans les champs, mais il a reconnu, qu'on puisse le reconnaître ce matin et faire ce qu'il nous demande, parce que ça voudra dire qu'on reconnaît sa souveraineté, son autorité, si sa parole a autorité sur nos vies, que son nom soit béni. » Seigneur, nous te louons, nous te célébrons. Merci pour la grâce, Seigneur, de te connaître. Merci parce que par la croix, tu as brisé nos cœurs orgueilleux, Seigneur, et tu les as amenés à reconnaître que tu es le Sauveur, le Seigneur, à reconnaître que sans toi, nous ne pouvions pas être sauvés. Sans la croix, sans verset, nous ne pouvions pas être sauvés. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te sommes redevables. Nous voulons ne pas faire notre volonté, ce qui nous plaît, mais Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Tu dis que pour ceux qui obéissent, le Saint-Esprit leur est donné. Seigneur, oui, nous voulons obéir, Seigneur, et que ton Esprit nous vienne en aide. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà.